C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, M. Legault a dit hier que ce serait souhaitable d'arrêter les bonis aux employés, en fait les cadres, les dirigeants de sociétés d'État, sauf peut-être la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Mais pour l'Auto-Québec, la SAQ, là, salaire seulement, pas de bonis. Alors, est-ce que c'est une promesse ou c'est vraiment une démarche qui est réaliste? Luc?
Moi, je pense que c'est une promesse, mais parce qu'il y a une réelle possibilité de perdre des gestionnaires. Mais quand même, remettons un peu d'équilibre là-dedans. Est-ce que les bonis descendent des fois dans ces entreprises-là? Oui, pour le président, oui, pour quelques directeurs, mais pour l'ensemble des cadres de la direction supérieure, là, ça descend jamais. Même des années horribles, les bonis restent là parce qu'ils font partie de la rémunération, fait qu'ils perdent tout leur sens. Mais est-ce que les bonis des directeurs, des grands-grands directeurs, des grands présidents, etc., c'est important? Oui, tu peux perdre des employés. C'est possible. Il y a des entreprises qui sont jugées comme des fermes de gestionnaires. Et puis quand les gestionnaires sont rendus à un certain niveau, ils sont captés par la concurrence. Ça, c'est un point. D'un autre côté, est-ce que ce sont des entreprises que tu peux transformer? Tu sais, Disney, là, 400 millions le salaire du président. 400 millions. 400 millions. Puis ils continuent d'engager du monde qui paye en coupon cadeau, en timbre pour manger à la base. Quand je faisais des négociations pour la ronde, parce que je suis au Grand Parc, la personne qui gérait la ronde me disait: ah oui, mais ici, c'est parce que vous donnez 14$ de l'heure. Dans nos autres centres, on donne 6$ de l'heure. On les amène en autobus. Je dis: vous devez certainement pas les garder longtemps. Non, on les garde un mois, deux mois peut-être, puis ils finissent par partir. Disney paye du monde comme ça, là, à 6$ de l'heure, à 7$ de l'heure, ou avec des packages de rétention dans lesquels il y a des petits coupons pour s'acheter du beurre de peanut, puis du coke, puis de la bière. Des fois, une caisse de 24 à la sortie. Voici ton bonus. Alors, le gars, lui, en haut, il gagne 400 millions, OK? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a un potentiel de transformation d'entreprise. Parce que du jour au lendemain, Disney pourrait doubler sa valeur boursière en lançant, comme ils l'ont fait, une chaîne de télévision. Est-ce que Hydro-Québec ou la SAQ sont dans des situations où ils pourraient, du jour au lendemain, doubler la valeur boursière? Non.
Ouais, moi, j'ai envie de te dire plusieurs choses. La première, c'est qu'à 5 mois d'une élection, c'est clair que la promesse ou l'engagement du premier ministre ressemble à une promesse de politicien. Ça, c'est toujours gagnant sur le plan politique de promettre la fin des bonis, parce que pour beaucoup de gens, les bonis, là, ça rime absolument à rien. C'est un cadeau qui tombe du ciel comme ça. Mais il y a un précédent, et le précédent, il est à Hydro-Québec, il y a quelques années. Depuis quelques années, les employés syndiqués ne touchent plus de bonis pour leur travail qu'ils font au quotidien. Il y a seulement la haute direction, sont une dizaine, puis les cadres supérieurs, les cadres de direction. Du côté de la SQDC, qui est une société d'État, aucun boni n'est versé. Donc, il reste SAQ, l'Auto-Québec et Investissement Québec. Hier, Pierre Fitzgibbon a dit en commission parlementaire, il n'est pas question d'enlever les bonis chez Investissement Québec, parce qu'Investissement Québec, c'est l'équivalent d'une banque. Alors, quand tu es une banque, tu te comportes comme une banque, puis dans le secteur bancaire au Québec, comme Desjardins, entre autres, on offre des bonis pour attirer des employés. Et Daniel Leblanc, le PDG, est même allé jusqu'à dire, si on n'a pas de bonus, on n'attire pas d'employés. Les employés vont aller ailleurs. Donc, c'est un secteur qui semble extrêmement compétitif. Ça peut-être effectivement se justifier. Par contre, ce qu'on verse à la haute direction, c'est autre chose. Mais pour ce qui est de la SAQ, l'Auto-Québec, on est dans un contexte de monopole. Alors, je dis effectivement à M. Legault, oui, tout à fait, pourquoi ne pas retirer les bonus aux employés qui sont syndiqués, mais probablement que ça va se traduire lors du renouvellement des prochaines conventions collectives par une petite augmentation de la rémunération. Parce que tu as des employés qui sont habitués, qui comptent en fait sur des bonis au quotidien pour avoir une meilleure rémunération. Mais est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce que ça influence vraiment le rendement des employés? Ça, on n'a pas de réponse à ça. Parce que est-ce qu'un employé qui reçoit un boni, là, je parle d'un employé syndiqué à la SAQ ou à l'Auto-Québec, est-ce qu'ils vont vendre plus de billets, plus de bouteilles de vin? Durant la pandémie, là, boni ou pas, là, ça sortait bouteilles de vin à la SAQ. Là. Alors, ça, je pense que ça peut être peut-être une unité de mesure sur ce que ça va faire une différence. La preuve, c'est qu'Hydro-Québec, on a retiré les bonus aux employés syndiqués, puis Hydro-Québec a connu une année record, c'est l'année dernière. Alors, ça, à la limite, on pourrait dire que ça n'a rien à voir les bonus auprès des employés syndiqués, j'entends. Pour ce qui est des cadres, c'est autre chose, parce qu'effectivement, il y a une compétition importante, féroce en la matière, pour ce qui est de recruter des cadres. Mais je vais terminer là-dessus. Je vais te laisser la parole, Luc. Dans le cas de M. Legault, ce qui est assez particulier, c'est que d'un côté, il veut d'abolir les bonnies auprès de certaines sociétés d'État, SAQ, Loto-Québec. Mais de l'autre côté, il dit ben ça prend des primes pour attirer les employés en santé, ça prend des primes pour attirer des employés en éducation. Fait qu'il y a des espèces de deux poids, deux mesures.
Mais Guy Leblanc d'Investissement Québec a une ligne pas payée quand même. Il a dit pas de primes, pas de bonnies. Ce sont les gens qui travaillent pas qui vont venir à Investissement Québec. Autrement dit, les moins bons.
Oui, bien ça, la performance, si ça a un impact sur la performance, super. Mais quand, comme je disais tantôt, quelle performance? D'abord, je reviens avec mon argument sur la transformation. Là. Amazon a lancé Prime, puis ça les a propulsés. Walmart a lancé son service en ligne, ses achats en ligne, qui est impeccable, ça les a propulsés.
SAQ, mais là, c'est pas la même chose, c'est dans le secteur privé. Là.
C'est pas juste parce qu'ils sont dans le privé, c'est parce qu'ils ont un potentiel de transformation. Chez Hydro-Québec, la demande est donnée, puis l'offre est donnée. L'offre, c'est les barrages, les éoliennes. La demande, c'est les exportations et la consommation nationale. Tu vas pas lancer une chaîne vidéo, là. Tu vas pas lancer un nouveau Hydro-Québec ou un nouveau Brunswick. D'ailleurs, Éric Clément avait tenté ça. Puis avant lui, il y en a bien d'autres qui ont fait ça. Puis avec le temps, Hydro-Québec a déjà eu une ligne au Chili, une ligne de transport au Chili. Il y avait eu des tentatives comme ça de développer Hydro-Québec. Là, peut-être, tu dis, OK, là, j'ai besoin d'un gars. Premièrement, il va toujours rester dans un avion. Ça, c'est une autre affaire, hein. Les conditions de travail. Si je vais à l'international, si je m'ouvre à l'international, si je change mon modèle d'affaires, c'est énormément de travail où tu n'es pas à la maison. Alors, quand tu reviens à la maison tous les soirs, l'offre est donnée, la demande est donnée, ça va évoluer avec le climat plus qu'autre chose. Pareil avec la SAQ, ça va évoluer à la marge. Oui, tu peux améliorer les commerces. Oui, tu peux lancer un SAQ Express. Oui, tu peux lancer un SAQ Sélection. Mais en gros, là, ça va évoluer de 3-4% par année. Alors, les bonnies, Mais il y a la question du vol d'employés, par exemple. Ça reste.
Du quoi? Du vol d'employés? Ah, ouais, bon, ouais, parfait. Ouais. Mais tu peux pas, c'est pas vrai que tu peux payer une Sophie Brochu 300 000 $ pour gérer Hydro-Québec. Oubliez ça parce qu'il y a des exercices de benchmarking, là, excusez l'anglicisme, qui font en sorte qu'on dit, ben, on justifie les salaires des hauts dirigeants de nos sociétés d'État en disant, ben, si elle travaillait chez Hydro One, par exemple, ou ailleurs au Canada, dans des sociétés d'État similaires, ben, la rémunération, évidemment, serait dans les 6 chiffres. Mais je souhaite revenir à Investissement Québec, effectivement, à la déclaration de Daniel Leblanc. Le boni, le Journal de Montréal a révélé que le boni, je sais pas si c'est un boni moyen, pour l'employé syndiqué chez Investissement Québec, c'est 4 316 $. Ça, c'est probablement imposable. Alors, en fait, mettons qu'à la fin de l'année, il reste, je sais pas, 3 000, 3 500 de boni net dans tes poches. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre un employé qui travaille chez Desjardins ou chez Investissement Québec? Parce que dans le cas d'Investissement Québec, là, depuis que la CAQ est là, la structure a évolué. Il se comporte vraiment comme une banque qui sont en compétition contre les institutions financières qu'on connaît, les Desjardins, les banques nationales, Banque de Montréal, là. Alors, ils sont extrêmement agressifs. Alors, c'est l'argument sur lequel s'appuie le PDG pour dire, ben, on a besoin des bonnies, nous.
Mais est-ce
qu'ils entendent Pierre Fitzgibbon, ils vont pas les éliminer, les bonnies chez Investissement Québec, là.
Non. Non, mais est-ce qu'ils peuvent perdre? Ça, c'est une grande question.
Ils ont fait 1 milliard de profits en passant Investissement Québec.
L'actif de... Oui, sauf qu'ils ont fait aussi beaucoup ils ont,
ont doublé le personnel.
Oui, mais ils ont fait énormément... comment ça s'appelle quand tu rayes des actifs?
Radiation.
Là. Ils ont fait énormément de radiation dans le passé aussi. Est-ce qu'ils ont perdu leur salaire quand ils ont fait des radiations? Ou c'est le gouvernement du Québec qui a réinvesti des milliards? Parce que c'est arrivé dans le passé. Là. Ça n'arriverait pas chez Goldman and Sachs. Là. Fait que ça, c'est une autre affaire. C'est quoi les conditions d'emploi? Est-ce que tu risques de perdre ton travail si ça baisse de 2 %? Est-ce que tu vas... C'est quoi tes conditions de travail au quotidien? Je le disais tantôt, est-ce que tu es toujours en avion? Est-ce que tu es en train de travailler sur les quatre surfaces de la Terre? Est-ce que tu as un fonds de retraite? Est-ce que tu as une garantie d'emploi? Est-ce que il y a plein d'autres questions là que tu dois prendre en considération, il me semble, avant de décider d'un boni. Là. Parce que sinon, tu vas dire... Ah, parce qu'il y a une époque où on a dit... Tout le monde qui risque de perdre, d'être séduit par la concurrence, on va leur donner un boni. Mais là-dedans, il y avait plein de personnes dont la performance ne changeait pas avec le boni, comme tu l'as dit, mais aussi des gens dont les conditions de travail étaient complètement différentes du privé.
Mais en conclusion, politiquement, c'est payant. C'est payant parler d'annuler les bonnies. Ça, c'est...
En parlant de politique, on va parler de cette vague, ce débat sur l'avortement qui est parti du Sud et qui remonte au Canada, au Québec. Hier, on a vu les partis politiques dire « Nous, on n'en veut pas des militants qui reconnaissent pas le droit à une femme de se faire avorter. » Alors qu'Éric Duhaime, lui, dit « Ben, moi, je suis ouvert à toutes les tendances, à des gens qui peuvent être comme ça, qu'on présente comme des pro-vie. Comment ça peut jouer sur l'électorat? » On va en parler tout de suite après.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, alors la question est simple. Est-ce que Éric Duhaime a raison de tolérer comme candidat de son parti un candidat qui est contre le droit à l'avortement? Nathalie.
Non, mais la position d'Éric Duhaime se défend. Puis je m'explique. Il y a une biographie qui est parue dernièrement sur Éric Duhaime, signée Frédéric Tétu, puis je suis en train de la lire. Et là, on apprend qu'Éric Duhaime adhère à la philosophie libérale classique, une philosophie autour de laquelle s'articulent trois axes, dont la défense des droits individuels. Puis vous entendez souvent Éric Duhaime parler de l'importance des droits civiques, de la liberté. C'est un thème, plus qu'un thème, c'est une valeur qui lui est très, très chère. Alors, c'est lui, et parmi les droits individuels, évidemment, il y a le droit à l'avortement. Et en conservateur et libertarien, je vous dirais qu'il vit assez bien avec le fait qu'il y a un de ses candidats, Dr. Épène, Roy Épène, qui dit, ben lui, parce qu'il a des convictions religieuses, il dit, ben moi, je pense que le fœtus, dès sa conception, ben c'est un être vivant, alors il est contre l'avortement, le droit à l'avortement. Éric Duhaime, que j'entendais au micro hier de notre collègue Patrick Lagacé, a dit, moi, je vis bien avec ça, mais à la fin de la journée, il faut que le candidat soit conscient puis accepte que le programme du PCQ, il y a rien dans notre programme qui laisse entendre que le droit à l'avortement est remis en question. Je suis pour le droit à l'avortement, a réitéré hier Éric Duhaime. Alors, si le candidat est en désaccord avec ça, ben dommage, il va devoir débarquer de l'autobus. Alors, sa position se défend, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, sur le plan politique, il s'achète beaucoup de problèmes puis beaucoup de troubles parce qu'il risque d'être sur la défensive plus souvent qu'autrement lors de la prochaine campagne électorale.
Luc. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs énormes failles dans son raisonnement et il le défend très mal. C'est-à-dire que quand il dit, mais moi, je me mêle pas de la vie privée des gens. La personne veut aller à l'église, elle va à l'église. La personne pense ça. Moi, ce qui est important, c'est la ligne du parti, c'est ça. Fait que là, quand tu arrives au vestiaire, ben, tu laisses tes croyances au vestiaire. Puis la ligne du parti, c'est ça. Un instant. Surtout un gars qui a un background de médecin, donc qui risque de prendre des décisions en santé. C'est pas vrai qu'on est capable de savoir si cette personne-là, ses principes, n'influencent pas ses décisions. Il y a énormément de décisions qui sont prises par des élus qui ne sont pas des lois discutées à l'Assemblée nationale. Par exemple, les décisions administratives. On coupe les fonds à tel groupe de femmes. On coupe les fonds à tel type de clinique. On met plus de fonds. Même pas obligé de le dire comme ça. On met plus de fonds sur les personnes âgées, par exemple. Oups, c'est subtil, personne ne s'en rend compte. Mais le pourcentage vient de changer. Pas vrai que tu peux mettre tes principes au vestiaire puis que tu peux prendre des décisions comme gestionnaire de l'État. Ça, c'est le premier point. Et de prétendre qu'il va laisser ses principes au vestiaire, déjà, ça n'a aucun mot du bon sens. La deuxième chose, moi, je me méfierais d'un gars qui a ce genre de croyances. Parce que dans, tu sais, la religion, là, c'est un ensemble de principes et de croyances. Okay? 90% de la religion chrétienne, de la religion catholique, les croyances sont basées sur la solidarité, le don de soi, l'amour du prochain. C'est un programme social, c'est un programme de partage. Et il y a des décisions là-dedans que tu choisis d'appliquer ou pas. La droite américaine, bizarrement, le 80% du corpus ou 90% du corpus de la religion chrétienne qui concerne la solidarité puis le partage, ils le mettent de côté. Puis ils se concentrent sur une patente ou deux, trois patentes, là, dont une qui est le refus des femmes de décider pour elles-mêmes de leur progéniture. C'est un choix extrêmement nocif, ça. Et il ne peut s'appuyer que sur une lecture aveugle de la société. On a des séries statistiques dans tous les pays du monde qui nous indiquent que les femmes qui se font avorter sont souvent des femmes. Il y a toutes sortes de femmes qui sont avortées, mais il y a une prépondérance, par exemple, chez les femmes jeunes, 14, 16, 17 ans, de personnes qui vivent dans la pauvreté, qui ont moins d'encadrement les autres. Et si jamais cette personne-là est forcée d'avoir son enfant, elle va vivre dans la misère. Et l'homme qui le procréateur, le géniteur de cet enfant-là, lui, il vivra pas dans la misère. Ça, là, ce sont des faits avérés. Fait que quand t'es un homme d'État, tu prends des décisions sociales, ta job, c'est de rétablir l'équilibre. Pas de perpétuer la pauvreté, pas de perpétuer la douleur et la détresse.
Luc, là, mais Éric Duhaime n'a pas dit qu'il était contre le droit à l'avortement. Au contraire, il a réitéré l'importance de ce droit. Tu parles de solidarité. C'est exactement ce qu'Éric Duhaime dit. C'est que je demande à mon candidat d'être solidaire de la position de notre parti. Sinon, c'est out, c'est terminé. Mais un libertarien comme lui, pour qui le respect des la liberté de choix, pour lui, c'est très important, c'est fondamental.
Mais est-ce que pour lui, n'importe quelle opinion est valable?
Je crois pas, parce que hier, Patrick Lagacé lui a posé la question, par exemple, quelle serait votre réaction, votre opinion sur les théories de, les fameuses théories de conversion? Parce que Éric Duhaime est homosexuel.
Ouais.
Ah, là, Éric dit, si j'avais un candidat qui embrassait ce genre de théorie, ben, c'est dommage, mais il serait pas candidat. À la fin de l'exercice, après quelques questions de Patrick, c'est ça qu'on a conclu. Alors, bon, évidemment, c'est toujours une question de choix. Cependant, lorsque j'entends M. Legault, et Mme Anglade dire, entre autres, on ne peut pas tolérer un candidat pro-vie au Québec qui est contre le droit à l'avortement. Je veux juste rappeler à M. Legault, très respectueusement, qu'à la dernière élection, c'est un auditeur qui écrivait ça ce matin, Alex, que je salue, je lui rappelle respectueusement qu'à la dernière élection, il a invité les Québécois à voter pour le Parti conservateur du Canada, dans lequel il y a 39 députés, on apprend ça ce matin dans le Journal de Montréal, qui, eux, sont des candidats pro-vie. Fait qu'à un moment donné, là, on n'est pas une contradiction près. L'autre chose, c'est que là, actuellement, sur le plan politique, parce que il y a le droit à l'avortement, puis moi, je suis la première à lever la main puis dire, je serais prête à sortir dans la rue pour défendre ce droit-là, qui est un droit fondamental et inaliénable. On ne peut pas remettre ce droit-là en question, là, au Québec. Et peu importe les partis politiques, peu importe les candidats, on ne peut pas remettre ça en question. Mais dans le cas du Québec, c'est pas vrai qu'Éric Duhaime va faire campagne là-dessus, là. Oubliez ça, là. C'est parce que ça soit un suicide politique d'ouvrir cette canne de verre qui est celle du droit à l'avortement.
Oui, mais même si tu prétends être pour le droit à l'avortement, si tu as dans ton équipe des personnes, en plus des personnes qui gèrent la santé, qui sont secrètement pour l'avortement, ça va avoir des incidences sur l'avortement. Ça va se traduire par une instance. L'avortement, le droit à l'avortement.
Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Okay, là,
je vais t'expliquer pourquoi.
Parce que là, c'est
Mississippi. Mississippi. Ouais. Mississippi.
Mais Mississippi.
Le droit à l'avortement est reconnu. Tu as le droit de te faire avorter à cause de Roe, tu as le droit de te faire avorter au Mississippi. Sauf qu'il y a 95% du territoire sur lequel il n'y a pas de clinique. Parce que
ajoute à ton argumentaire que l'État du Mississippi, c'est l'État qui s'est adressé à la Cour suprême. C'est pour ça qu'on est dans les États-Unis sont dans le merdier dans lequel ils sont actuellement.
Oui,
mais ça
n'a
pas rapport,
l'État
du Mississippi, avec le programme du PCQ.
Attends. Ce que je te dis, c'est que tu peux prendre des décisions administratives qui ne te forcent pas à annoncer que tu es pour ou contre l'avortement, mais qui vont avoir un effet sur l'avortement. Surtout
parce
si
que
c'est
le droit et l'accès de choix.
Voilà.
Non, mais appliquons ça, mettons, là, au Québec. Mettons que M. Duhaime nous dit qu'il est favorable au libre choix puis que les femmes ont le droit de se faire avorter. C'est une chose.
Absolument.
Mettons qu'il nomme quelqu'un qui n'est pas affiché, mais que cette personne-là décide que l'accès va être réduit. Et il prend des décisions qui ne sont pas un projet de loi, mais qui c'est l'allocation de ressources qui fait en sorte que tu as le droit de te faire avorter, mais tu dois faire 500 km pour trouver une place. C'est un peu ça que tu veux.
Oui, c'est ce que je dis. Puis exactement, entre 9 à 5. Par ailleurs, il n'y a pas juste ça. Il y a la stigmatisation des femmes. Une personne qui dit, moi, mes croyances religieuses sont plus importantes que toi, ta vie, ta relation avec ton enfant, éventuel ou pas. Ça, là, c'est une stigmatisation des femmes. Comment l'expliquer? C'est statistiquement dans tous les pays du monde.
Là-dessus, je te suis. C'est épouvantable de savoir qu'en 2022, un candidat d'une formation politique
merci,
au Québec.
Merci.
Oui, c'est épouvantable de savoir ça. Oui, mais Luc, c'est son argumentaire, c'est ce que je te dis depuis tantôt. Lui dit, je veux respecter la liberté de choix des gens.
Il assume les
conséquences qui viennent avec. Parce que moi, je dis, il s'achète un paquet de troubles inutilement. Et le jour, le scénario que tu évoques, Paul, c'est un scénario là, hypothétique, on s'entend. Là.
Oui, parce qu'il ne prendra pas le pouvoir. Mais...
Exactement. Puis en passant, Éric Duhaime, là, il est la cible de toutes les attaques de la part de la CAQ, du Parti libéral du Québec, entre autres, parce que...
Mais Jonathan avait un point. Sous Harper, il y avait des députés conservateurs qui étaient anti-avortement, mais qui avaient un poids beaucoup moins grand. Maintenant, là, c'est quoi? C'est 39,
le tiers.
Ben, c'était nettement moins que ça dans le temps. Fait que, tu sais, c'est... Éric Duhaime, veut pas, il est la porte d'entrée de ceux qui refusent aux femmes le droit de se faire avorter.
Attendez, moi, je pense qu'on devrait davantage s'inquiéter d'une possible, je dis possible parce que rien n'est encore joué, d'un Pierre Poilievre chez les conservateurs à Ottawa que d'un Éric Duhaime comme chef du Parti conservateur du Québec. Là, parce que Pierre Poilievre, selon moi, avec tout le mouvement Right Now et Pro-Vie qui supporte les conservateurs. D'ailleurs, il y a un jeune conservateur qui s'est fait élire à la dernière élection en Ontario, là, 19 ans, parce que Right Now l'a fait élire. Là. Il est avec l'équipe de Doug Ford. Puis il y a plein d'exemples comme ça en Ontario, entre autres, mais dans l'ouest du pays également. Alors, moi, je pense qu'on devrait davantage s'inquiéter de l'impact d'un Pierre Poilievre sur le droit des femmes.
On va le surveiller ce soir, d'ailleurs, avec M. Charest dans le party où il y a des anti-vaccins et autres. Ça va être intéressant de voir le débat entre eux. Merci à tous les deux. Bonne journée.
C'est 23.